Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Alezada sur Radio FM Plus 91 à Montpellier avec William Balfour à la technique. On peut écouter également l'émission en différé sur les podcasts de Radio FM Plus. J'ai aujourd'hui comme invitée Madame Anne-Marie Jean-Jean, poète. Elle s'exprime autour de la poésie des femmes afghanes, une poésie d'Afghanistan peu connue. Bonjour Anne-Marie Jean-Jean.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Anne-Marie Jean-Jean, juste quelques mots pour nous éclairer sur ce qui vous a intéressé à la culture d'Afghanistan, ce qui vous a attiré au travers de cette culture.
Alors, c'est
ou interpellé.
Oui, c'est d'abord par l'archéologie, puisque c'est un carrefour des cultures et que c'est d'une richesse extraordinaire et qu'évidemment, on essaie de faire disparaître et de faire taire. Donc, c'est par là que j'ai commencé. Et puis, disons que je suis intéressée par tout ce qui se passe de ce côté-là du monde. Et ensuite, j'ai eu en main les poèmes de femmes qui écrivaient à ce moment-là et qui étaient traduits par des Américaines, ce qui m'a amenée à écrire le texte cependant et pour l'éditer en m'adressant à une éventuelle jeune poète d'Afghanistan.
Aux éditions Tardigrade
Édition.
Voilà. Donc là, vous nous parlez d'un livre de Saïd Bahauddin Majrou.
Alors qu'il y a, oui, c'est un personnage important qui a séjourné à Montpellier, il a étudié la philosophie et c'est vraiment un conteur, un poète et quelqu'un de considérable.
Ce poète, Saïd Bahauddin Majrou, est né en 1928. Ce poète afghan était aussi une figure et un porte-parole de la résistance afghane. Comme vous l'avez dit, Anne-Marie, il a fait ses études à Montpellier en philosophie. Il a étudié également la psychologie. Il fut doyen de la faculté de lettres de Kaboul. Un temps nommé gouverneur de la province de Kapisa, poste dont il a démissionné un an après environ. Poète, c'est-à-dire conteur inspiré, il rédige dès 1930 les premiers chants d'une fable prophétique, Ego Monstre. Il a publié également des chants d'errance. Il a été assassiné à Peshawar en 1988. Et là, nous allons parler d'un recueil, Le suicide et le chant.
Alors, le suicide et le chant, c'est une collecte qui a été effectuée par Majrou. Donc, ce sont des poèmes dits par les femmes pachtounes, aussi bien en Afghanistan que dans les camps du Pakistan où elles étaient réfugiées. Alors, une première édition a eu lieu en 88, au moment de l'assassinat de Majrou, bien sûr. C'était, je crois, sous l'égide de Bernard Noël. Et puis, il y a eu une deuxième édition en 94, alors là, préfacée par André Velter, qui a été assez proche de Majrou. Voilà, donc c'est le résultat de cette collecte qui donne ce titre, Le suicide et le chant. Mais avant d'aborder tout cela, il faut quand même, pour comprendre, jeter un bref regard sur quelques points d'histoire du pays, et notamment en ce qui concerne les femmes, et l'histoire jusqu'à maintenant. Donc alors, je vous propose quelques dates, rapidement. Sous le règne du roi Amanullah, depuis 1919, la première école de filles est ouverte. En 21, un hebdomadaire féminin est créé, un hôpital, une maternité, une école pour les infirmières et sages-femmes. En 23, 12 femmes sont élues à l'Assemblée nationale. Mais en 24, il y a la révolte des religieux qui sont beaucoup plus intégristes et qui est matée carrément par l'État. En 28, est promulguée la liberté vestimentaire et de mouvement. L'âge du mariage est imposé à 18 ans minimum. La polygamie, les mariages temporaires sont interdits. Et la scolarisation obligatoire pour filles et garçons, ainsi que Oui, pour filles et garçons. Et les premières bachelières partent en Turquie faire leurs études supérieures. Mais en 1929, il se passe un événement. Le gouvernement anglais, considérant le roi comme menaçant leurs intérêts, encourage et soutient les religieux à la révolte. Et cela contraint le roi à l'exil. Néanmoins, en 1931, une école de filles est réouverte à l'intérieur du palais royal. En 1933, réouverture des écoles de filles par le ministère de la Santé publique, parce qu'il y a un gros besoin d'infirmières. Et pour apaiser à nouveau les religieux, le port du tchadri est conseillé, entre guillemets. En 1934, un lycée de filles est ouvert dans la capitale ainsi que dans les provinces. En 1947, c'est l'université qui est ouverte aux filles. En 1959, quiconque contraint une femme à porter ou non le voile est punissable par la loi, donc la femme a le droit de choisir. Et puis en 1964, le droit de vote est établi pour femmes et hommes. On a 4 femmes élues au suffrage universel à la première Assemblée nationale. Hommes et femmes sont égaux devant la loi et la scolarisation obligatoire pour garçons et filles, même si elle reste non appliquée dans les secteurs les plus reculés. En 1965, on a une première femme ministre de la Santé. Ensuite, on a l'occupation et la guerre avec l'armée soviétique. Et disons que de 79 à 96, il va y avoir la guerre en permanence, guerre civile, et les femmes. Mais les femmes sont toujours avec leur emploi dans l'éducation, la santé, les administrations. Le 27 septembre 96, le pouvoir tombe aux mains des intégristes. En 2004, on a l'établissement de la République et en 21, c'est le retour du pouvoir intégriste. Tout cela pour rappeler à quel point les femmes de ce pays ont envie d'étudier et de pratiquer toutes les activités qui leur sont possibles.
Qu'en est-il à présent? Je crois que vous avez des témoignages à nous offrir, extraits de la revue Afrane du mois de septembre 2022, numéro 178. Une revue éditée dont le directeur est Étienne Gilles, avec le soutien de l'ambassade de France.
Alors, c'est un témoignage d'une jeune femme qui était professeure et qui maintenant exerce dans le privé ou dans le secret, je ne sais plus, et qui raconte ce qui est arrivé un soir. Elle est très déprimée, très triste, tout ça. Mais un jour, son père rentre à la maison et il dit « Il fait bon ce soir, allons dîner quelque part ». Donc, tout le monde se prépare, etc. Et puis, à l'entrée du restaurant, un homme s'empresse vers nous et s'adresse à mon père et lui dit « Vous irez dans la section messieurs et les dames dans celle des femmes ». Mon père lui demande avec étonnement « Est-ce une salle de mariage ou un restaurant ? Nous voulons dîner ensemble ». L'homme dit avec désespoir « C'est leur ordre ». Mon père s'énerve, mais en entendant leur nom, il se tait. Il ne veut pas ajouter autre chose. Nous rentrons chez nous. Bon, voilà, la soirée est très triste. Et elle dit, j'efface mon rouge à lèvres, je ferme les yeux. Pourtant, je sais que dans mon sommeil et mes rêves sont aussi effrayants que les jours. Et l'effroi envahit mon cœur et mon esprit. Et elle dit, même le vent est en colère. Et elle mentionne aussi ce qui est fait à l'égard des présentatrices de la télévision. Elles doivent porter un masque pour ne pas provoquer les hommes. Quelle justification! Quelle souffrance pour les femmes et quelle image négative de l'homme, si faible et vulnérable, dont le désir sexuel est provoqué par la vue seule des lèvres et de la bouche des femmes. Un masque noir, enfermé dans les pensées ténébreuses des talibans. Mais au fait, qu'est-ce qu'une femme? Quelqu'un dont on n'a pas le droit de regarder les lèvres et la bouche? À quoi servent les lèvres? Ne servent-elles pas à embrasser, parler, rire et lire? Avez-vous jamais pensé à une vie sans bouche? Voilà, donc ça c'est un des aspects du quotidien.
Quelques mots autour du soufisme, Anne-Marie Jean-Jean ?
Oui, alors il faut aussi signaler cette influence si importante, et Majrou en est le témoignage. L'influence du soufisme qui a irrigué tous les territoires de langue persane. Et en très bref, c'est donc le courant mystique de l'islam qui est né en Irak, à Bassora, à Bagdad, et en Syrie. Et c'est le courant, c'est le versant lumineux de l'islam, et il est traversé par des tas de courants. Donc, en très très bref, au début, ces mystiques sont en marge, ils sont pris pour des fous sans intérêt, mais peu à peu jugés dangereux, puisqu'ils recherchent une très haute spiritualité qui s'avère bien éloignée des conflits, guerres et intrigues des pouvoirs bien terrestres. La crise culmine avec Halaj, qui est très prosélyte. Il passera 10 ans en prison, jugé et exécuté en l'an 909 de notre calendrier. Pour ça, il faut s'adresser aux écrits de M. Massignon. Mais cette philosophie se diffuse et se retrouve dans tous les territoires, et on retrouve aussi chez les poètes, chez les philosophes. Et je pense à un poète tel que Attar, qui est mort en 1190, et à sa conférence sur les oiseaux, la conférence des oiseaux plutôt, ainsi que Rumi pour le livre du dedans. Il est mort en 1273, et qui est un livre d'éveil vers la conversion de l'âme vers la lumière. Et ces poèmes sont dits, racontés et guident vers des questionnements avec humour et une grande, ça c'est important, une grande mobilité de réflexion. Alors, et on sait que Rumi est devenu ce qu'il était, un grand poète, après sa rencontre avec un errant, un Cham de Tabriz, l'affamé, comme on l'appelle.
Nous allons aborder cette poésie féminine des femmes afghanes sous la forme des landai. Alors, le landai, c'est un poème de 2 vers libres en 9 et 3 syllabes, sans rime obligatoire, mais avec de solides scansions internes. Ce n'est pas une poésie mystique. Cette poésie exalte l'amour et la liberté, au contraire d'un quotidien imposé. Voici traduit en français quelques landai, extraits de poésie populaire des femmes pachtounes, qui va à l'essentiel de l'existence, témoignage de poésie orale, dite par les femmes pachtounes à l'origine du landai et collectée par Saïd Bahoudine Mashrou. Le destin m'a donné pour époux un enfant que j'élève. Mais Dieu, quand il sera grand et fort, moi je serai vieille et faible. Que ce rocher m'écrase de son poids, mais que jamais ne m'effleure la main d'un vieux mari. Oh mon Dieu, tu m'envoies de nouveau la nuit sombre. Et de nouveau, je dois monter dans le lit que je hais. Que Dieu donne au petit affreux un sommeil éternel. Le moindre chat l'éveille et il m'épille sans cesse.
Mon aimé, je n'ai rien à t'offrir. Sauf au cœur de mon cœur, la demeure que je construis pour toi. Fais-toi mendiant et fou, et pars à ma rencontre. Personne ne peut barrer la route aux religieux errants. Dieu, ne laisse pas mourir une femme en exil. Avec son dernier souffle, elle oublierait ton nom pour ne plus penser qu'à sa terre natale.
Aux luttes que je veux voir en pièces. C'est moi qui l'aime et c'est toi qui gémis dans ses bras. Déjà, le coq chante l'aube. Alors, qu'il restait tant à dire, tant de désirs à épuiser. Je me suis faite belle dans mes habits usés, comme un jardin fleuri dans un village en ruine.
Ton amour, c'est de l'eau, c'est du feu, et des flammes me consument, et des vagues m'engloutissent. Viens, mon amour, allons. Au lit ensemble. Ma dignité de femme, c'est d'être dans tes bras. Demain, les affamés de mes amours seront satisfaits, car je veux traverser le village. À visage découvert et les cheveux au vent. Si meurt mon amant, que je sois son linceul. Ainsi, nous épouserons la poussière ensemble. Donne ta main, mon amour, et partons dans les champs pour nous aimer. Ou tomber sous les coups de couteau.
Anne-Marie-Jean-Jean, vous avez souhaité nous lire une citation d'un texte du poème Attar, mentionné par Saïd Bahouddin Majrou.
Alors, c'est tiré de la conférence des oiseaux de Attar, et c'est un texte magnifique. Et on va voir que ce n'est pas dépourvu d'humour et de questionnement. Un maître soufi avait un disciple particulièrement soigneux de sa personne. Il portait sa barbe majestueuse et fleurie, l'entretenait avec une grande délicatesse, la lissant, la cajolant, la parfumant, elle lui donnait le vrai profil du parfait croyant. Pourtant, il advint que le disciple, un jour, ressentit le besoin de se confier à son maître. « Maître, j'ai scrupuleusement suivi vos enseignements, mais sans succès. Pas la moindre illumination, pas le plus léger signe d'assentiment divin, rien. Quelque chose ne va pas en moi, dites-moi. Reviens demain, dit le maître, et tu auras une réponse. » Et le lendemain matin, le maître dit « Dieu dit que tu consacres bien plus d'attention à ta barbe qu'à lui. » Désespéré, l'autre entreprit à pleine main de s'arracher de longues touffes de poils. « Tu vois, chuchota la voix céleste à l'oreille du maître, il n'y a vraiment que sa barbe qui l'intéresse. »
Un extrait de Chant d'errance écrit par Saïd Bahouddin Majrou. C'est un voyageur qui va au devant des habitants d'un camp de l'exil. C'est une femme prophétique qui a été écrite en 1974, il me semble, donc en anticipation de ce qui allait advenir. À mi-chemin du camp, là il va à la rencontre des femmes justement. À mi-chemin du camp et de la source trouble, un arbre plusieurs fois centenaire étageait ses ombrages. Il constituait une halte obligée et bienvenue sur l'aride parcours. Celle qui allait croisait celle qui revenait avec les lourdes cruches et elle se reposait là un moment, reprenant souffle et force. Un jour que je m'y trouvais aussi, le dialogue s'engagea. Je leur demandais ce qu'elles pensaient de la vie en terre d'exil. Elles baissèrent les yeux, chuchotèrent, puis l'une d'elles prit la parole. Le plus dur en exil, c'est l'étrange. Ici, tout est étrange. Et nous sommes des étrangères.
Thank you. da 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 da